On est le 10 octobre, journée spéciale pour moi, puisque c'est, il y a de ça 11 ans, je devenais père.
Père de famille. Oh, c'est la fête de ton fils?
Oui, ça fait déjà 11 ans. Ça a pris 30 secondes à faire ça, puis c'est encore en vie après 11 ans.
Ben pour dire, oui. C'est 30 secondes bien investies.
Bien investies.
Tu l'as-tu avec toi aujourd'hui?
Non, il n'est pas avec moi aujourd'hui. Il va être avec moi, avec toutes les choses qu'il a à faire pour sa fête. Il va être avec moi dimanche.
Dimanche. Puis là, est-ce qu'il fait d'autres choses pour sa fête avec toi dimanche?
Oui, j'ai prévu quelque chose, là, mais c'est ça. Il ne m'a toujours pas invité à son laser tag.
Oh!
Mais c'est moi qui dois payer et il doit y aller avec ses amis uniquement.
OK! Voilà.
Mais voilà. J'ai dit à mon fils, puis je sais pas si toi tu as ces discussions-là avec ton gars, mais j'ai dit, est-ce que papa c'est ton meilleur ami? Il me dit, ben oui, papa, t'es mon meilleur ami depuis ma naissance. OK. Donc, je pourrais aller à ta fête, sinon t'es mon père.
Bien essayé.
On se fait rejeter.
Ben voilà.
Hein. C'est la première fois, Yannick?
Je te dirais, de mémoire, c'est la première fois évidente. Okay. Le plus jeune de 8 ans est un peu en avance. Souvent, le deuxième est un peu plus en avance sur ton premier parce qu'il voit un peu le premier aller puis ouais. Il s'ajuste. Là. Mais Isaac, cette année, il m'a regardé. J'étais dans les estrades. C'était sa première pratique. Puis là, j'étais tout content. J'étais le seul qui était assis. Les parents étaient en train de parler au resto, chercher un café. Puis moi, j'étais d'avance. Fait que j'étais assis. Puis là, j'attendais qu'il se revire vers moi. Puis quand il s'est reviré vers moi, j'ai fait un beau bye-bye, tu sais. Fais-moi un signe de main. Et il m'a fait à peine un petit signe, là, tu sais, genre.
Non!
Oh, oui, puis il a baissé la tête.
Puis il a baissé la tête tout de suite.
Non, en plus, je pense que t'es un papa cool, là.
C'est parti.
Ouais, voilà. Je sais pas si je suis un père cool.
Ben, je parle pas du côté discipline. Ouais. Je pense que t'as un père qui élève ses enfants avec une belle discipline.
Tu sais, le père cool qui a fait un gala de lutte, puis je me suis battu contre un gros goré. Ben... Mon gars a dit, papa, je veux un gilet de Steven Sullivan.
Je trouvais un crime que c'était cool. Là.
Ça, être cool.
C'est le fun, hein? On sait qu'ils sont là pour nous autres, ces enfants-là.
Toi, Denis, t'es-tu un papa cool? Ou...
Je sais pas. Faut que je fasse les deux. Là. Des fois, faut être cool, mais des fois, faut faire notre job plate de parents. Ouais.
Mais
je trouve
que ça va ensemble, tu sais.
Je sais pas. Mais je vois ce bout-là s'en venir, là, puis moi, je vais avoir de la misère à le gérer.
Je suis pas
encore. Pas encore. Mais je sens que ça s'en vient, par exemple.
Comment?
Comment ça?
Comment ça se manifeste?
Ben là, ils grandissent, les maudits, là. Puis c'est des petites affaires, tu sais. On avait comme un running gag. Quand je vais les porter à l'autobus le matin, je leur donne un petit coup de klaxon quand ils s'en vont. Puis là, ils se dévient, puis ils font « Ah, oh, papa, c'est gênant. »
Ben j'espère. Puis, le plus vieux,
il y a quelques semaines, m'a dit « Hey, tu sais, papa, j'aimerais vraiment ça que t'arrêtes le coup de klaxon, là, parce que là, mes amis, là... Ah oh, bon, OK, c'est beau. » Fait que quand il est sorti, j'ai baissé la vitre, puis j'ai dit « Je t'aime, mon grand! »
C'est encore mieux. Yeah.
Vraiment cool, le papa. Hein?
Non, j'ai
pas...
pour vrai?
Non, je l'ai pas fait.
T'es comme Denis, là, tu comprends pas, là.
Ouais, c'est l'adolescence qui appelle ça.
En même temps, c'est notre job de montrer à l'oisillon qu'à un moment donné, il va falloir qu'il quitte le nid, mais tu veux jamais qu'il quitte le nid.
Écoute, une chance que ma blonde est là pour ça. Pour vrai, là, elle voit comment sont les moineaux, là, puis les gravelles, on a tous été de même. J'ai été un enfant couvert, tu sais, où ce que mes parents faisaient tout à ma place ou à peu près, puis...
Ça, c'est tough pour les blondes. Honnêtement, là, c'est tough pour la suite, pour vous autres aussi, je pense.
Mais, tu sais, elle lui donne beaucoup d'indépendance, puis écoute, je suis revenu cette semaine, le grand faisait la vaisselle. Moi, je tripais ma vie, là, je veux dire. Ça fait du bien. Fait du bien, des fois, de pousser par en avant un petit peu.
Parce que toi, tu l'aurais fait.
Absolument. Absolument, ouais. Même que ça a été dur que... moi, je suis un peu obsessif-compulsif. Là.
Ah oui, je savais pas.
Tu sais, les lits, il faut que ça soit... Je retiens de ma mère. Je suis devenu tout ce que j'haïssais de ma mère, ce qui est terrible.
Et là, t'en es fier.
Plus ou moins, fait. Je sais pas. Je sais pas comment vivre avec ça encore. Faut que je parle à ma mère, d'ailleurs. Elle va tellement rire. Mais, tu sais, ma blonde a dit, « Hey, c'est le temps que tes grains fassent le lit, là, tu sais. » Ouais, mais ils le font pas bien. Ouais, mais il faut que tu les laisses de même. T'sais, c'est leur chambre, pis c'est eux autres qui font leur lit. Ouais, mais c'est parce... C'est pas droit. Il y a des plis.
Tu préfères
non,
le
vas-y
faire.
Pas. Laisse-les faire.
Ah, mais okay, c'est bon. Ça pratique ton laisser-aller. Ouais, en même temps, ça pratique leur indépendance.
C'est ça.
Honnêtement, tu ne les aides pas.
Non.
Si tu ne fais pas ça.
Je suis d'accord.
Parce qu'après ça, la vie adulte va être tough.
Oui.
Puis ils vont se demander pourquoi les relations interpersonnelles vont être difficiles, puis pourquoi leur planification personnelle sera difficile.
Je suis l'exemple que cette recette-là fonctionne pas.
Fait que...
J'ai peur de lui. Oh. Midi 4, vous êtes dans le pit stop. Merci d'être là, soit dit en passant. 418-971-101, si vous avez des choses à nous dire, c'est par texto. Sous la plume de Marie-Pierre Mercier, sur le site de Radio-Canada, on pouvait lire le 19 septembre dernier que, contrairement au maire de Québec, le maire de Lévis ne demandait pas davantage d'argent parce qu'il disait que lui, somme toute, à Lévis, ça semblait bien aller là, au niveau de la guerre entre les moteurs et le BFM. Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 10 octobre, aujourd'hui, on apprend que 5 individus qui auraient été enlevés et séquestrés en moins de 2 semaines à Lévis, toujours dans le contexte de la guerre qui fait rage pour le contrôle du trafic des stupéfiants dans la région.
Es-tu en train de me dire que Lévis fonctionne exactement comme le reste de la province?
Oui, en fait, ce qu'on a dit, toi et moi, avec Pascal, le 19 septembre dernier, c'est... Il me semble que le maire de Lévis parle un peu trop vite.
Ouais.
Parce que, regardons ce qui se passe en Beauce présentement, regardons ce qui se passe à Québec. D'après moi, il doit se passer à peu près la même affaire à Lévis. Il aurait dû se garder une petite gêne parce que là, c'est pas beau ce qui arrive aujourd'hui dans son secteur.
Puis, tu vas avoir de l'air fou de dire, bon, ben à la lumière de récents événements, finalement, je pourrais-tu avoir un peu d'argent, s'il vous plaît? Il peut pas se placer dans cette position-là. J'attends le front commun, je l'ai pas vu encore. C'est un dossier, ça, où ça aurait été facile de ramasser quelques maires importants pour un point de presse commun, puis dire « Hey, on a besoin d'aide, parce que là, c'est violent, ça touche nos jeunes, ça touche notre territoire. » Puis ça a été une erreur stratégique de Lehoulier de se tirer un rang avec ça en disant « Ah, oh, nous autres, à Lévis, on est correct. » Je pense que la bonne stratégie, ça aurait été de trouver 3-4 maires qui demandent la même chose, un marchand, un Lehoulier, checker sur la portion sud de la province, s'il y en a quelques-uns qui sont dans la même situation, puis mettre de la pression ensemble sur le gouvernement.
Rassembler ses citoyens et rassurer, surtout, c'est ça le mot que je voulais, là, c'est la commotion. Voulais-tu rassurer ses citoyens? C'est-tu une mauvaise stratégie, finalement?
Ouais, ça, c'est comme quand tu veux rassurer du monde en début de pandémie, puis tu lui dis ça va bien aller, ça peut se retourner contre
ou
toi à un moment donné.
Ou quand tu mens à ta conjointe, ton conjointe pour pas les, okay. Pour leur faire de la peine.
Est-ce que ça se peut que le maire de Lévis voulait faire une jambette à ce moment-là à Bruno Marchand?
Ben là, arrêtez de vous faire des jambettes, puis travaillez pour nous autres
un peu. Mais
là.
Est-ce que ça se peut que ce soit ça? Parce que je veux pas, le maire de Lévis doit être au courant de ce qui se passe dans son service de police.
Ouais.
Puis d'après moi, le chef du service de police devait savoir que le bunker du BFM se retrouvait sur la rue Saint-Joseph. Là. D'ailleurs, ils ont fait une descente il y a quelques jours-là. Là.
Mais moi, je vais donner un conseil au maire Lehoulier. Si jamais il change de position puis qu'il demande de l'argent au gouvernement, peut-être regarder le pourcentage de son budget qui va à son service de police avant de demander de l'argent. Puis juste vérifier, là, il est à quelle hauteur. La Ville de Québec a eu de l'air folle dans ce dossier-là, là, de demander plus d'argent. Puis finalement, dans les chiffres de gestion de la Ville de Québec,
il en donne pas assez.
On investit moins dans notre service de police que les grandes villes qui ont eu de l'argent.
Okay. Mais comment, il y a de ça quelques semaines, tout était beau à Lévis. Et là, ce qu'on apprend par l'entremise du Journal de Québec, c'est que les enquêteurs de Lévis sont actuellement complètement débordés face à la montée de la violence sur le territoire de Lévis puis le travail qui en découle. Les gars sont à bout, là.
La situation n'a pas changé en 2 semaines. On est d'accord là-dessus. Là.
Ouais.
Je veux dire, je pense que Lehoulier était soit pas du tout au courant de ce qui se passait, peut-être qu'il était au-dessus de ses affaires, ou encore il savait, mais il a décidé de prioriser de faire une jambette à la Ville de Québec ou d'essayer de très maladroitement rassurer sa population, parce que déjà, tu avais eu des histoires de voitures incendiées sur la Rive-Sud. Il y avait déjà des signes que ça brassait d'une façon ou d'une autre. Puis parle à n'importe quel policier sur la Rive-Nord ou la Rive-Sud, ils font face actuellement au même problème et à la même guerre de motards. Lévis n'est pas un territoire indépendant de style Vatican où les trafiquants de drogue se disent « Hey, si on a une affaire à régler, il faut que ça se passe à l'extérieur de Lévis. » Parce que, oh, shérif Lehoulier, il endure pas ça dans sa ville. C'est pas vrai, là. T'sais, les policiers ont besoin de moyens, les policiers ont besoin d'argent, les gens ont besoin d'être assurés, puis c'est vrai sur la rive nord et la rive sud.
Pourquoi est-ce qu'ils travaillent pas en collaboration? Parce que moi, j'adore le fait que, quand tu dis se réunir en tant que maire, puis si on trouve qu'on n'a pas assez de ressources du provincial puis du fédéral dans certains dossiers, au moins on s'assoit ensemble. Bon, je comprends qu'il y a eu Rififi entre Labeaume et Lehoulier, ce qui a divisé quand même rive sud, rive nord au point où on n'avait même plus d'interconnexion à un moment donné dans des réseaux de transport structurants puis des plans, mais Et ils ont tout à perdre. Est-ce que c'est une histoire d'ego? Parce que pour moi, tu as tout à perdre dans une gestion comme celle-là.
De ce que je comprenais, la relation était bonne entre le maire Marchand et le maire Lehoulier. Si on compare avec la relation précédente avec Régis Labeaume, je m'explique mal cette sortie-là du maire Lehoulier. J'ai hâte de voir comment il va rajuster le tir, d'ailleurs, parce que c'est un problème qui prend de l'ampleur. C'est un problème de violence qui touche des régions où on n'est pas habitué d'en avoir, puis ça nous déstabilise, parce qu'une des raisons principales pour lesquelles on reste dans une ville comme Québec ou une ville comme Lévis, c'est qu'on veut vivre en ville, mais avec un certain sentiment de sécurité. Et là, c'est ça qui est atteint. Tout le monde devrait travailler ensemble. Tu sais, je parlais de front commun tantôt. Les députés de la région devraient être les premiers à être solidaires des demandes des maires, justement, pour bonifier la police. Là, on comprend qu'il y a des effectifs de la SQ qui sont venus s'installer du côté de Québec dans les derniers jours. Oui. Je ne sais pas si on va faire ça du côté de la Rive-Sud aussi, mais il faut que tout ce monde-là travaille ensemble.
Ils ont déjà de la misère en corps policier parce qu'ils ont été, comment dire, conditionnés à travailler dans leur silo. Pas qu'ils saillissent la face, c'est pas ça que je dis, mais ils ont été conditionnés à travailler avec ça, c'est ton département, ça, c'est le tien, ça, c'est tes tâches, ça, ce sont les tiennes. Rappelle-toi les carpentiers, les petits carpentiers, ça a été une des choses dans le rapport qui a été mentionnée et surlignée. Il va falloir qu'il y ait une meilleure collaboration entre les secteurs policiers, puis surtout un genre de redéfinition de tâches, du genre si on a besoin de vous, point, mais que ce soit dans vos tâches ou pas.
J'imagine, j'espère que la relation entre la SQ puis les corps de policiers des villes, c'est pas la même chose qu'on voit dans tous les films policiers aux États-Unis ou la police de village. Quand le FBI arrive, là, ça commence à chicaner tout de suite. Puis là,
ou
la police de
la
village
SQ,
bougonne. Puis ouais, c'est ça. J'espère que c'est une. On n'est pas assez gros. On est trop petit pour qu'il y ait des rivalités de corps de police qui nuisent à des enquêtes ou qui nuisent à l'avancement de dossiers qui sont importants, comme ce qui se passe présentement avec la guerre des motards.
Ouais. Quel avantage qu'on a à avoir deux maires qui semblent ne pas s'apprécier?
Aucun.
Et quel avantage qu'on a à avoir un maire qui ne semble pas avoir la confiance du provincial actuellement? Il s'est tout fait enlever. Il reste plus rien, le maire Marchand, là, à gérer. Là. Bon, on a donné la gestion du futur tramway au RTC, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais probablement que quand le tramway sera bâti, le maire Marchand ne sera plus là. Mais on ne gagne rien à avoir un maire qui n'est pas très rassembleur là, avec les autres paliers de gouvernement.
Pas de partner, tu n'avances pas dans vie, en politique ou ailleurs. Et oui, présentement, on a l'impression d'avoir deux villes isolées. Une fois de temps en temps, il y a un point de presse où il y a un député qui va être là, va faire des sourires, va donner des poignées de main, mais on le sait, les relations sont pas bonnes. À une certaine époque, Régis Labeaume était en guérilla souvent, mais il y avait des alliés de son bord. Et souvent, les alliés, ils faisaient partie du gouvernement, ils représentaient la région de Québec pour toutes les couleurs de députation, pas juste le gouvernement, mais aussi l'opposition, les autres partis, et ainsi de suite. Puis ils étaient capables de mettre de la pression sur la tête gouvernementale pour que on ait plus d'argent, plus de financement pour qu'on fasse avancer les projets de la Ville de Québec et ainsi de suite. Mais là, on se retrouve dans un climat où tout le monde est isolé. Puis il n'y a plus personne qui croit le gouvernement en place de toute façon. Vous avez vu les chiffres ce matin d'un sondage TVA, Journal de Québec, Léger Marketing et ainsi de suite. Je veux dire, le gouvernement, s'il pense que c'est avec des promesses qu'on va réussir à se faire réélire, bonne chance les tipites, parce que les Québécois vous croient plus sur absolument rien. Là.
Le retour des expos de Montréal.
Ouais.
20% seulement des Québécois y croient contre 80 qui y croient pas. Le retour des Nordiques de Québec, 21% des gens y croient contre 79% des gens qui y croient pas.
Et pas beaucoup.
Le troisième lien, bien que ce soit une demande de la majorité de la population des gens de la capitale nationale, c'est 29% des gens qui y croient contre 71% des gens qui n'y croient pas du tout.
J'y crois pas encore. Je suis dans le rouge là, là-dessus. Là. Puis je comprends les Québécois de ne pas y croire non plus. Tu changes d'idée 4 fois en 4 ans. Mm. C'est sûr que tu n'y crois pas.
Mais là, ils peuvent plus changer d'idée, Denis.
Gâches-tu?
Ouais, oui.
Ah, ils sont capables.
À partir du moment où ils sont capables d'aller chercher un vote avec ça, fais-toi-en pas. Ils vont changer d'idée.
Je suis certaine qu'ils sont capables. Je suis certaine que même plus de là, on va falloir se réaligner et offrir un mandat clair et concis. J'ai l'impression qu'ils disent qu'on n'a plus rien à perdre.
Ouais.
Puis quand tu es rendu là en politique, C'est quand même un constat d'échec.
Un toit durable pour le stade olympique, 63 % des gens qui y croient plus versus 37 % des gens qui y croient. Projet Nordvolt, 63 % des gens qui y croient plus versus 37 % des gens qui y croient. Tramway de Québec, oh boy, là, ça commence à être plus positif sur les croyances. 51 % des gens qui ont répondu y croient contre 49.
Ça veut dire qu'on croit plus à Nordvolt qu'au Nordique?
Oui.
OK. OK, on est dans la marde.
ça, c'est un projet, moi, qui me tiendrait grandement à cœur, puis c'est un projet que je ferais d'un océan à l'autre. Le TGV.
Ouais.
Un train grande vitesse qui relierait un océan à l'autre au travers du Canada. Je trouve que ce serait vraiment pertinent. Ce serait un projet pour le pays au grand complet. Puis on pourrait ajouter à ça un projet qui ferait Canada-États-Unis, là. Du nord au sud.
Mais est-ce qu'on est un petit peu trop émotif par rapport à ça? Parce que je me rappelle, mettons, il y a 2 ans, j'étais dans une soirée où il y avait beaucoup de gens d'affaires, puis t'es comme, nous, on va le financer, on s'en fout, rendu là, ça va être le privé qui va le financer.
Le TGV?
Ouais. C'était tellement intéressant pour eux et tellement souhaité qu'il y avait même des conglomérats de gens d'affaires de Québec et autres qui commençaient à jaser en disant, on va le financer, on va trouver, je sais pas, à la hauteur de quoi, puis s'ils étaient prêts pour ça financièrement. Mais était comme, ça sera pas public.
C'est quoi les chiffres?
Ça avancera pas.
C'est 55 % de croyants contre 45 % qui disent non, nous, on n'aura jamais ça. Puis le TGV, ça serait Québec, Montréal, Toronto, Windsor.
Parce que c'est émotif, on le veut tous, là. À la base, mais est-ce qu'on est capable de se l'offrir? C'est pas le privé, justement, qui le fait.
C'est-tu juste la job de la CAQ, ça, le fait qu'on ne croit plus du tout au gouvernement puis aux grandes réalisations ou aux grands projets, ou c'est l'accumulation de tous ceux qui sont passés les uns en arrière des autres? Moi, j'ai l'impression que c'est juste la goutte qui fait déborder le vase, là, le gossage sur le troisième lien, la débandade de Nordvolt.
Depuis la corruption.
J'aimerais ça, moi, garrocher le blâme sur la CAQ à 100 %, mais la réalité, c'est que c'est une accumulation où tu as eu beaucoup de gouvernements successifs, libérales, péquistes, caquistes, qui n'ont pas été capables de grandes réalisations ou de mener à bout des projets et des engagements qui étaient très clairs dans leur plateforme.
Ouais, quand tu vois les sondages à travers le temps, là, c'est depuis l'avant-commission Charbonneau, au moment où le scandale de corruption éclate, là, c'est là où de plus en plus de personnes se sont réveillées face à la possibilité qu'il y ait des magouilles au sein d'un gouvernement. C'était déjà vu, déjà entendu auparavant, mais là, ça a été confrontant pour les citoyens.
Mais j'ai plus l'impression que c'est tous les paliers gouvernementaux, que ce soit au municipal, au provincial ou encore au fédéral, des gens qui, pendant leur campagne électorale, se sont permis de faire des promesses, sachant très bien qu'ils ne pouvaient pas réaliser ces promesses-là, mais ils les ont faites quand même, se sont faites, ont eu des votes de leur côté sur ces promesses-là, puis rendu une fois au pouvoir, aller au diable, je vais faire ce que je veux. Je pense que les gens sont un peu désabusés de ça.
Puis un coup que tu as perdu la confiance, c'est dur à regagner. J'ai beaucoup de blondes qui m'ont dit ça.
Mais c'est quand même vrai.
puis oui, je l'ai appris à la dure. Non, mais
c'est... Comme tu le savais pas.
C'est ça, non, ça a été difficile pour toi.
Ouais. Puis je reviens à la politique. Mm-hmm. Je sais pas comment inverser cette tendance-là, puis ça va être très difficile. Mettons qu'on arrive avec un super de beau projet, là, un grand rêve, un grand projet, on a trouvé quelque chose que 100 % des gens, allons-y avec un scénario rose bonbon, 100 % des gens sont pour. Là. Les gens y croiront pas. Les gens y croiront pas. Puis quand tu y crois pas, tu peux pas soulever un projet de terre. Tu sais, quand Jean-Paul Lallier est arrivé avec son escalalier là, en or massif là, qui était supposé de relier la haute ville et la basse ville, tu sais, le monde était tellement sceptique, on est parti à rire, on a fait des jokes et tout ça. Évidemment, dans un contexte comme ça, tu peux pas réaliser un projet. Comment tu fais pour inverser une tendance où, maintenant, quand un gouvernement nous dit quelque chose, « Hey gang, troisième lien, finalement, vous allez l'avoir. » Non, bullshit. « Hey, le tramway, on part ça. » Ouais, c'est parce que ça fait 4 fois que vous le partez. Bullshit. Comment on fait pour inverser cette tendance-là? Je le sais pas. Ça va être dur.
Ça va prendre des gens qui vont arriver un jour au pouvoir. Je pense que ça va être une jeune génération qui vous diront la vérité de A jusqu'à Z.
Est-ce que vont tu vas le croire?
Qui va être très transparent. Moi, j'y crois encore. J'y crois encore que cette politicienne-là va arriver un jour, que ce politicien-là va arriver un jour, puis qu'il va nous faire voir peut-être une autre facette de la politique qui va probablement se faire détester par toutes les autres décennies là, qui sont en place encore à l'Assemblée nationale en disant que lui, il est jeune ou elle est jeune, elle. Puis là, elle est en train de dire tout le temps la vérité, puis elle veut réaliser ses propres projets parce qu'elle l'a promis à sa population. Elle va probablement se faire détester, cette personne-là, mais tu sais quoi? Ça va nous prendre ça pour qu'un jour, on continue de croire à ce que l'argent qu'on envoie, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, soit utilisé à bon escient. Moi, il y a un gars que j'aimais bien, je perds son nom de famille, il s'appelait Denis, c'était un gars qui était au fédéral, c'était le sergent, c'était un des sergents d'armes de Stephen Harper. Qui était quand même reconnu pour être excellent en économie, là, Stephen Harper.
Pis... Lebel?
Denis Lebel, c'est ça. Puis c'était comme le sergent de Stephen Harper. Puis il était venu me voir en studio le soir. J'avais passé 3 heures avec lui. Puis c'était une belle discussion. Puis j'ai été tellement déçu à un certain moment. Là. On parlait de l'anneau de glace
ouais.
qu'on voulait bâtir à Québec. Puis au début, le projet, ça avait comme pas de bon sens. Je pense que c'était un genre de 100-120 millions. Puis selon les statistiques, ça allait servir à 1 ou 2 % de la population. Puis je disais, mais Monsieur Lebel, quand on vous envoie de l'argent au fédéral, est-ce que vous prenez la peine d'analyser les demandes qui sont faites au niveau municipal? Provincial pour certains projets. Est-ce que vous vous dites, ouais, ils nous demandent, je ne sais pas moi, 50 millions pour ça, mais ça va servir à 1 % de la population. Est-ce que vous posez des questions? Il dit non, il dit nous, c'est des budgets. Donc, il sépare les budgets, puis nous, ben, si le budget est là, ben, on va dire oui, c'est beau, allez-y avec ce projet-là. Ouais. Ça m'avait tellement déçu. Parce qu'ils ne font pas ça avec leur propre argent. Hein.
Non, c'est sûr.
S'ils ont à investir avec leur propre argent, là, tu peux être sûr qu'ils vont poser une multitude de questions, puis qu'ils vont se dire ben, ça, est-ce que ça va me rapporter plus tard ou c'est-tu de l'argent lancé dans le vide? C'était conservateur. Puis qui m'ont dit ça. Ce soir-là, je revenais chez nous, je me disais, ça finira jamais.
La politique, ça marche pas.
Ils vont toujours nous en demander plus.
Ben oui.
T'sais, ils savent même pas ce qu'ils font avec notre propre argent.
Puis on voit que c'est comme ça. Puis le mur s'en vient d'une façon ou d'une autre. Puis tu sais, on parle de croire aux grands projets des prochains gouvernements. Sont loin les prochains grands projets parce qu'on s'enligne vers des décennies difficiles où la phrase qu'on va entendre le plus en politique, c'est « Désolé, on n'a pas le choix. On va perdre ». Des services, on va perdre des façons de faire que les Québécois prennent pour acquises parce que la population vieillit, parce que le système de santé craque de partout, parce que nos écoles vieillissent puis qu'on n'est pas capable de les retaper. La qualité de notre service d'éducation est so-so aussi. On s'enligne vers des décennies difficiles. Puis je pense que les gens le savent. Tu sais, on est capable de gauger un peu la température de l'eau, puis c'est pourquoi peut-être... Plus que jamais, les gens sont cyniques et sceptiques quand on arrive avec des affaires comme « Hey, on va jouer au dragon avec votre argent, les contribuables, puis on met ça sur Nordvolt. » Mais vous, M. Fitzgibbon, vous avez mis combien de votre fortune personnelle dans Nordvolt? C'est pas important! On prend votre argent, puis on le garoche dans Nordvolt.
Oui.
C'est normal que les gens soient sceptiques et cyniques, puis je pense qu'on voit les années difficiles arriver parce que tous les chiffres sont là, tous les indicateurs sont là. Puis les gouvernements continuent de faire semblant que ça va bien puis que tout est beau. C'est profondément insultant.
Puis ils savent, depuis au moins 2 ans, j'ai des gens autour de moi qui travaillent dans des organismes semi-gouvernementaux, là, ce qui fait en sorte qu'ils sont subventionnés en partie par le gouvernement, mais c'est des organismes, des organisations qui sont dans des filets sociaux. Là.
Mm-hmm.
Puis ils se font couper leur budget là, depuis 2 ans. Puis ça, on le voit pas, nous autres, parce qu'on parle du ministère de la Santé, on parle du ministère de l'Éducation, mais tout ce qui est les petits filets sociaux un peu partout qui font en sorte que ça roule dans la ville, puis que les gens sont pas laissés à eux-mêmes, puis se ramassent pas dans la rue, mettons. Ben ils se font couper, parce que là, c'est comme toi ou toi. Ah, Yannick, t'as une bonne cause, mais j'ai pas donné à Denis depuis 5 ans, mais là, il me reste comme 2 piastres. Puis vous me demandez 5 chaque.
Et pendant ce temps-là, ben le nombre de fonctionnaires augmente, puis t'as une machine qui est hors de contrôle, que t'es plus capable de dégraisser. Ça va être tough les prochaines années, les amis.
Yes! Hey, je veux vous faire entendre un extrait que j'ai pris sur le site de l'Assemblée nationale, toujours disponible. C'est le député de Taschereau, Étienne Grandmont, de Québec solidaire, qui faisait un point de presse hier, puis il avait pris acte de, je pense que c'est de l'article du Journal de Québec, qui mentionnait que l'ingénieur Mascotte avait dit que s'il y avait un troisième lien à Québec, ben ce serait entre 8 et 10 milliards de dollars. Et là, il trouvait ça épouvantable. Puis il prenait la parole hier. Pas été capable d'aller le chercher avec mon ordinateur, ce qui fait en sorte que j'ai regardé si j'étais capable d'avoir l'extrait sur mon cellulaire. Ça fonctionne.
Tu dis que les vidéos sont accessibles. Oui, le site est accessible. Le vidéo, on a une seule machine dans tout l'environnement Leclerc Communication qui est capable de le jouer, puis c'est ton cellulaire.
Exactement. Puis je veux juste que vous gardiez en tête les 3 amigos qu'on avait à Québec il y a de ça quelques années, avec qui Denis Gravel a fait une entrevue il y a de ça pas très longtemps. Et 3 amigos qui défendaient corps et âme Québec. pour que l'argent qui était prévu pour Québec arrive à Québec, pour que des dossiers qui étaient choisis par les gens de Québec soient faits par des gens de Québec, puis que Montréal n'avait pas d'affaires dans nos affaires.
On parlait des alliés de la bombe tantôt, Agnès Maltais, Gérard Deltel, Sam Ahmad, chacun leur couleur de parti. Il y en a deux qui ont fait partie d'un gouvernement. Ces gens-là mettaient de la pression sur leurs dirigeants pour que l'argent arrive à Québec.
Exact. Je vous fais entendre Étienne Grandmont. Écoutez ce qu'il avait à dire hier. Ça va partir.
On est au top de la technologie.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Oh là, c'est bon, c'est bon.
Commencez par une nouvelle qui revient, hein, comme à chaque année, avec la neige, avec le froid, avec l'Halloween. Le troisième lien entre Lévis et Québec, 8 à 10 milliards de dollars pour une infrastructure autoroutière au-dessus du fleuve, entre Québec et Lévis. J'en reviens juste pas encore comment ça, c'est démesuré les chiffres qui sont associés à ce projet-là en termes de coûts. Parce qu'en termes d'utilisation, là, c'est ça les vrais chiffres. Si on compare à une infrastructure dont on a beaucoup parlé depuis la semaine passée, le métro de Montréal, 800 000 utilisateurs, 800 000 déplacements par jour de façon quotidienne la semaine dans le métro de Montréal, alors qu'on prévoit seulement 9 000 voitures quotidiennement sur le troisième lien entre Québec et Lévis à son ouverture. C'est ça la réalité. Moi, je m'épate toujours de voir la CAQ revenir avec ce projet-là, avec aussi peu d'assises, aussi peu de demandes réelles de transport, de déplacement entre les deux rives. Ça me fait halluciner. Ça, pendant que le métro de Montréal est en train de se détériorer à vitesse grand V, il faut entretenir cette infrastructure-là. Les chiffres le montrent, on en a besoin. C'est l'artère principale, c'est le squelette qui permet de tenir ce poumon économique-là de la ville, qui est la ville de Montréal. Et je le rappelle encore une fois, le déficit d'entretien, il est immense.
Donc voilà, ce que Grandmont dit, c'est que le 8 à 10 milliards de dollars, faudrait l'envoyer au métro de Montréal.
Moi, mettons que je suis un apôtre et un fervent de Québec solidaire, mettons. Mettons que j'ai voté pour Étienne Grandmont, mettons. Là, il vient de perdre mon vote à vie.
Tu regrettes? Ah oui, à vie.
Ben, écoute, tu sais, y a-tu quelque chose de plus malhabile politiquement de dire les sommes d'argent qu'on veut prendre pour la région de Québec, moi, je les enverrai à Montréal. Ça va, man! Ça va?
Ouais, ben écoute, t'as lu un peu dans mes pensées, parce que ce matin, j'écoutais ça dans ma voiture, tu vas dire, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai le droit de la polluer comme je veux. Donc, j'écoutais le point de presse d'Étienne Grandmont à l'Assemblée nationale. Puis là, j'entends ça. Lui, il dit 8 à 10 milliards de dollars pour un troisième lien, c'est beaucoup trop. Ces chiffres d'achalandage, là, c'est les anciens chiffres d'achalandage, sont pas bons. Dès qu'il y aura des épisodes de trafic à Québec, nécessairement, les gens qui n'ont pas à passer par Québec vont prendre l'autre pont où les camions vont pouvoir passer, entre autres. Fait que ces chiffres ne sont pas bons, mais lui, il dit 8 à 10, non, à Québec, c'est pas bon, on devrait envoyer cet argent-là à Montréal, alors qu'on a un projet de tramway. Là.
T'sais,
on a un projet de tramway qui s'en vient à Québec. Donc, s'il avait dit, savez-vous quoi, on cherche de l'argent pour le tramway, on a plein d'autres phases, on pourrait réserver ça pour le tramway de Québec... Ça aurait été correct. On n'en aurait probablement pas parlé.
Il aurait pu arriver avec une liste puis dire « Voici ce que moi, je donnerais à la région de Québec pour cette somme-là. » Puis tu y vas plus baveux que ça. Tu dis « Regarde, mettons qu'ils font le troisième lien, mais qu'ils font pas à 10 milliards, ils le font à 5 milliards. Ben voici ce que je ferais juste avec 5 milliards qui servirait mieux la population de Québec, d'après moi, que le troisième lien. » Mais exiger qu'on prenne ces sommes-là et qu'on les déplace vers Montréal, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
C'est un petit peu...
Je comprends que, pour M. Grandmont, la religion du transport en commun, ça passe par-dessus tout, là. Puis c'est pas d'hier, là. Mais il y a un gros manque de jugement politique. Mais et c'est très malhabile comme déclaration.
C'est fascinant, là. Parce que enlever l'argent pour Québec prévu pour, justement, une restructuration des transports en commun, qui vont avoir à faire de toute manière dans les prochaines années, donc de remettre de l'argent, puis lui devrait prôner que ça soit instauré partout dans les grandes villes de la province et de se dire non, on va encore investir à Montréal, c'est de laisser côté, de côté un projet qui lui-même aurait chapeauté s'il pouvait.
Souvenez-vous quand on parlait des enveloppes qui étaient disponibles au fédéral pour ce qui est du transport en commun, pour ce qui est des transports, du transport en commun structurant,
oui, oui.
Du matériel lourd et tout ça, il y avait de l'argent qui était disponible. La bombe nous a chalé avec ça en disant l'argent est là, ça vient pas là, chez là. Nous, ben va là ailleurs.
Faut se trouver un projet là, oui. Parce que l'argent, faut l'amener chez
puis
nous.
Grandmont disait, Régis, la bombe a raison, il y a de l'argent disponible au fédéral, faut l'amener chez nous.
Ouais.
Là, lui, il s'est pas souvenu de ce qu'il avait dit. Et là, ben, moi, j'aime beaucoup les journalistes qui posent de bonnes questions, puis ça arrive assez souvent. Mais des fois, c'est un peu triste. Mais là, en plus, j'ai l'extrait avec le visage d'Étienne Grandmont quand il se rend compte que la journaliste va lui poser la question, puis il se rend compte qu'il avait peut-être pas amené la bonne affaire ou il avait pas dit la bonne affaire. Je vais essayer de garder mes mains sur les tables parce que j'ai le goût de me toucher. Là. qu'est-ce que
il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que ça avait pas d'allure, ce qu'il venait de dire là. OK, pas
tout
juste
comme
nous
Yannick,
autres. Là.
Et je vous le fais parallèle.
Et je vous le fais entendre. Je garde ma main sur la table.
Merci parce que je suis là, hein, oublie pas.
Là, je répète. Lui dit prenez l'argent du troisième lien, envoyez ça dans le métro de Montréal.
Merci. Tout à l'heure, quelqu'un pourrait être surpris puis se dire c'est quand même un peu spécial qu'un député de la région de Québec dise on va prendre l'argent du troisième lien à Québec on va le mettre dans le métro de Montréal.
C'est quoi notre proposition là en fait là? Ce que je disais en fait c'était, je revenais sur la proposition qu'on a faite hier qui était de prendre l'argent qui est prévu pour l'électrification pour le placer plutôt sur le maintien des actifs. L'électrification des transports urbains.
Un lien entre le métro de Montréal et le troisième lien.
Parce que les villes sont pas à la bonne place, là, c'est clair. Là. Je veux dire,
c'est de l'argent, le troisième lien, c'est de l'argent pour Québec. Là.
C'est de l'argent pour Québec, un qui
n'est
pas.
C'est qui la journaliste? T'es bon là-dedans, toi?
Je pense que c'est une journaliste du Soleil, mais je veux pas mettre, je mettrai pas ma main au feu. Excellente.
Qui que ce soit, beau travail, si on est capable de s'en rendre compte d'un studio de radio, ça devait être adressé quand Grandmont faisait de l'enflure verbale. Et tu sais, dans le ton d'un politicien, il y a un ton que t'écoutes pas ce qu'il dit. T'entends juste le ton et le ton dit « OK, je viens de scorer dans mon but, faut que je trouve une explication et j'en ai pas. J'ai de l'air niaiseux, continue de parler, broute une réponse. » Pauvre monsieur Grandmont.
Ah non, ça n'a pas été une journée facile pour Étienne Grandmont. Puis bon, ben, ça me faisait plaisir de mettre la cote, mais quand j'ai vu le visage, c'était de toute beauté.
Comment peux-tu faire... T'sais, je comprends le mélodrame, là, pis, c'est tellement important le transport en commun. Il s'est perdu dans sa religion, et c'est pas la première fois que le monsieur se perd avec ça. Avant la politique, il faisait partie des groupes de pression, puis ainsi de suite. C'est un gars qui était très arrogant dans les points de
vivre
presse.
En ville.
Ben oui, ben oui. C'est pas la première fois qu'il se perd dans sa prétention, mais celle-là est très bonne, puis bravo aux journalistes qui l'ont rappelé à l'ordre. L'argent qui vient dans la région de Québec, c'est sa job et sa responsabilité de lui trouver des utilités. Puis on peut débattre, mais jamais débattre. On prend ces sommes-là pour les envoyer à Montréal. Voyons donc.
Denis, techniquement, ça serait fini, mais là, il faut qu'on se parle.
Qu'est-ce qu'il y a?
Richard Martineau.
Oui!
Qui a annoncé ce matin dans le jeu, à Québécois, en fait, qu'il avait le cancer. On parle du cancer de la prostate. Lui, il est premier surpris de ça parce qu'il avait aucun symptôme. Il a fait un test sanguin. Puis là, ben, le médecin, il a décelé que dans le test sanguin, il y avait un petit truc qui voulait résoudre.
Genre,
là,
rupture de la prostate.
On va y aller avec le test de prostate direct. Et là, ils ont découvert qu'il y avait certaines polypes là, de mémoire. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça.
Ouais. Il y en a des qui ne sont pas cancéreuses, puis il y en a qui le sont.
Et il va devoir se faire traiter. Dans son cas, lui, il dit, tu sais, heureusement, c'est pas un cancer qui est extrêmement virulent, puis il va pouvoir s'en sortir. Là.
C'est
on,
ça.
On lui souhaite.
Il est précoce.
Il est à 90 % de chance de succès. Il enlève la prostate, that's it, that's all.
C'est un choix, par contre. Ça doit être difficile, les gars, là, faire le choix. Il dit, soit je faisais de la radio pour aller détruire ces petites cellules cancéreuses-là, ou on m'enlevait, on faisait l'ablation de la prostate.
Oui, mais c'est une crainte pour nous autres en passant, mais parce que de plus bander du jour au lendemain, ça doit être un choc.
Mais ça vient avec votre conception totale, pour le plaisir, puis je pense que ça fait partie de votre masculinité aussi, là. Et je n'ajouterai pas toxique, tu sais. Et je n'ajouterai pas toxique, mais ça... Combien... En tout cas, il y a beaucoup d'hommes après... qui n'ont pas réussi à retourner en relation aussi, ça a des impacts, là, parce qu'ils ne pouvaient plus bander. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le sexuel à cause de ça, parce que les hommes qui ont besoin, mais pour lui,
dans le cas
il
de
dit
Richard,
que ça va être collègue.
Dans le cas de Richard, il dit qu'il va pouvoir continuer de tirer, mais il va tirer à blanc. Puis dans son cas, ça ne dérange pas parce que la chope était déjà fermée. Ouais.
Il dit, heureusement, ce n'est pas un cancer qui est très virulent. Ouais. Malheureusement, pour les gens qui me détestent, je vais être encore là pour les prochaines années.
C'est drôle. Tu sais, des fois, c'est parce que ça fait plusieurs semaines que je cours après Richard Martineau, parce que je veux y parler en onde, parce que je m'ennuie. On a déjà eu une belle collaboration quand il a fait de la radio à Québec et tout ça. Puis je me trouvais achalant, mais je me disais, voyons, Richard, il répond pas, c'est quoi le problème? Puis là, vendredi, j'ai pris mon courage à deux mains. Non, j'étais chaud. Fait que j'ai écrit à Richard. Puis là, j'ai dit, hey, Richard, on a-tu un problème? Pourquoi c'est dur de t'avoir en entrevue? Puis tout ça, il dit, il me semble que ça faisait longtemps qu'on se disait, quand on va avoir l'opportunité, on va se parler. Puis il m'avait répondu, écoute, Denis, je suis occupé. Tu vas lire ma chronique de jeudi, puis tu vas comprendre ce qui se passe. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que là, j'attendais cette chronique-là. Puis ce matin, ben, j'ai réalisé ce qui préoccupait Richard dans les dernières semaines. Normalement, on lui parle demain après-midi à Richard Martineau là, pour jaser un petit peu de tout ça puis célébrer nos retrouvailles.
Il dit « J'ai jamais été malade, j'avais aucun symptôme, je pisse comme l'aqueduc qui a pété à côté de Télé-Québec à Montréal. Et pour ce qui est du sexe, je suis Napoléon dans son cercueil, dressé comme un chevreuil. »
Sa chronique est excellente.
Oui, 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 je retrouve
Moi, je te demanderais certaines informations à savoir
tu dis
si c'est
ça parce que c'est Richard La Tendresse, mais si
C'est Richard Martineau.
Richard Martineau. Tu dis ça parce que c'est Richard Martineau. Parce que si moi, Denis, on avait dit ça devant toi dans le studio, oh là, ça aurait pas été la même affaire.
Sais-tu pourquoi je dis ça? Parce qu'on me parle d'une annonce du cancer de la prostate. Si toi, tu me dis que t'es bandé comme un cheval puis que t'es comme Napoléon dans son cercueil, comme ça, dans un contexte de radio où, honnêtement, t'es pas malade...
Moi, j'ai Étienne Grandmont, tantôt, avec sa face qu'il faisait, il était pas content, c'est... peut-être.
Ouais, je quitterais.
Moi...
j'ai pas besoin de tout ça.
Moi, je bande au vent, là. Mais pendant Étienne Grandmont, j'ai rien filé.
OK.
Je viens te le dire.
Je vous l'avais pas demandé. Je suis capable de faire la part des choses. Je suis capable d'admettre que c'est une grande partie de votre masculinité puis pour vrai, beaucoup d'empathie pour ceux qui passe à travers de ça. Ouais. Mais si vous me parlez de votre bandaison, ça m'intéresse
mais
pas.
Mais allons faire les tests, les amis. Surtout si on est dans la fin quarantaine, début cinquantaine. C'est important de le faire. Ça peut sauver notre vie puis ça va nous permettre d'être plus longtemps avec nos enfants.
C'est le but, hein?
Puis d'énerver Pascal Cévé.
Oui.
Ben ça, c'est tellement content.
C'est joindre l'utile à l'agréable.
Mais tu sais...
Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un vent de malaise en studio actuellement.
Un vent?
Un vent de malaise. Ah.
Faudrait juste pas que ça lève.
Hey, c'était le fun. Je vous invite à ma bandaison de crémaillère.
Parle-moi-en plus.
Non, mais t'as déjà ton titre de podcast. Ce que Denis a dit.
La bandaison de crémaillère?
Ben oui.
Je bande au vent, des gravelles.
Mais je voudrais juste savoir... Pour quel podcast, mettons? Je commence un podcast sur quoi, moi?
Non, mais celui-là que tu vas sortir, là, tantôt, là, pour que ça soit disponible pour les auditeurs.
Partout sur le blvd.fm.
Exact, on revient. Marceau